J'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle, avec pour vous, Vietnamiens, un mois d'avance, parce que c'est plus tard, hein. Mais que le Seigneur vous bénisse, vous conduise, qu'il vous garde, et qu'il vous fasse, et qu'il nous fasse grandir dans la foi et dans son service. Alors justement, le thème « Aimer Dieu comme Marthe et Marie », c'est ce que ce texte nous présente. Une autre rencontre a précédé la rencontre de Jésus chez Marthe et Marie. Marthe et Marie sont donc les sœurs de Lazare qui va mourir, que Jésus va ressusciter. Ce sont des amis, c'est un trio, hein, ces deux sœurs et ce frère. Sont véritablement des amis, des intimes du Christ. Le Seigneur a énormément passé de temps chez eux. Mais avant d'aller chez eux, il a rencontré un docteur de la loi. C'est au sujet donc de ce qu'on appelle la parabole du Samaritain. Et ce docteur de la loi lui a posé la question suivante: que faut-il pour hériter de la vie éternelle? Et donc Jésus va lui retourner une question. Il va lui dire: que lis-tu dans la loi? Et avec beaucoup d'intelligence, le docteur de la loi va lui dire: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et à ce moment-là, Jésus lui dit: eh bien, va et fais de même. Et puis, le savant de la loi va essayer de se justifier en posant la question: mais qui est mon prochain? Et de là, donc, cette parabole du Samaritain, qui exprime l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes que nous sommes. Non seulement qui prend soin de nous, mais qui va payer, comme le Samaritain, va payer d'avance tous les soins, tous les besoins pour cet homme qui a été agressé. Et c'est là l'expression de l'amour de Dieu vis-à-vis de ceux, de l'humanité, et donc de ceux qui vont se tourner vers lui, qui vont pouvoir véritablement profiter de cet amour. Et lorsqu'il rentre chez Marthe et Marie, il va là rencontrer une autre situation qui va l'amener à expliquer comment grandir dans cette vie éternelle, puisque Marthe et Marie sont des croyantes. Hein. Elles ne sont pas encore nées de nouveau, évidemment. Le Saint-Esprit n'a pas été donné, le Christ n'est pas mort, la Pentecôte n'a pas eu lieu, mais ce sont quand même des personnes qui sont croyantes. Et il va leur expliquer, en quelque sorte, leur donner une indication très importante, surtout à Marthe, sur comment grandir dans la vie éternelle, c'est-à-dire comment grandir dans notre relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le fond, lorsque Jésus s'adresse à Marthe, on peut se poser la question: est-ce qu'il lui adresse un reproche? Alors, c'est évident que Jésus se porte à la défense de Marie, puisque Marie, elle est assise aux pieds du Seigneur, ce qui est une position tout à fait inattendue pour une femme, d'une part, et ensuite c'est une position qui exprime quelque chose de très important dans l'Israël de l'époque, c'est qu'on ne se met aux pieds que de celui dont on reconnaît qu'il est notre maître, dans le sens d'un enseignant. Donc c'est tout à fait surprenant que Marie se mette aux pieds du Seigneur, mais en même temps, elle exprime une vérité première. Je me tiens aux pieds du Seigneur parce que je reconnais cet homme comme justement quelqu'un de supérieur, comme étant le Seigneur, puisque c'est elle, comme il est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 de l'évangile de Jean, les premiers versets. Il nous est rappelé quelque chose d'important. Il est dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Donc vous voyez, cette Marie, elle avait discerné quelque chose chez le Seigneur. Parce que oindre le Seigneur, dans l'évangile de Jean, ce sont les pieds, dans les synoptiques, les trois autres évangiles, c'est la tête, c'est reconnaître une autorité chez Jésus-Christ. Et donc, lorsque Jésus arrive, il n'est pas tout seul, il se déplace avec ses disciples. Et Marthe, elle se dit, mais il faut faire quelque chose, il faut les nourrir, ces gens-là. on ne va pas rester comme ça à bâiller aux corneilles. Donc elle s'affaire, et elle s'affaire pour servir le Seigneur. Et en cela, c'est tout à fait honorable. Simplement, il y a une priorité qui n'est pas respectée quelque part, et que Jésus veut lui rappeler tout simplement, une priorité qui n'est pas respectée dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'avant d'agir, il faut écouter. Alors que Marie, elle, se met au pied du maître et l'écoute. Et c'est très intéressant de voir que l'écoute, ce n'est pas simplement entendre une voix. Écouter, c'est véritablement être attentif à ce que la personne écoute. Elle ouvre notre intelligence à la découverte de la personne qui nous parle. J'ai discuté avec quelques avant le début de ce culte, et en particulier avec notre sœur Fernande vers la fin, et j'étais très attentif en l'écoutant à observer la manière dont elle me scrutait. Vous savez, nous étions en train de nous parler, puis j'ai bien perçu que Fernande, que je connais depuis quelques temps, était là en train de me scruter. Et moi, je faisais la même chose vis-à-vis d'elle, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un nous parle, on n'entend pas simplement des mots. On capte une pensée, des propos, mais on est en face d'une personne. Et donc, c'est la personne que l'on est en train de capter. C'est ce qu'on appelle le non-dit, c'est-à-dire ce qu'elle ne, la personne ne va pas exprimer, ce qu'elle est dans le fond de son cœur, mais la manière dont elle vous parle, dont elle s'adresse à vous, cette personne, elle vous communique sa nature. Et c'est ça que Marie recherchait, quand elle se met à l'écoute. Et lorsque Dieu dit à Israël, « Écoute Israël », vous connaissez la déclaration de foi du judaïsme, ce qu'on appelle le schéma, puisque c'est écoute, ça veut dire schéma, ça s'écrit en hébreu schéma, schéma Israël, Adonai Eloud, Adonai Elal, c'est-à-dire écoute Israël, écoute-moi. Mais quand Dieu dit écoute-moi, il n'est pas en train de dire simplement entends des mots, il est en train de dire mais prends conscience de qui je suis, découvre-moi, pénètre ma personne. C'est ça qui est remarquable dans l'écoute. Et d'ailleurs, qu'est-ce que les psychologues nous disent ? Si vous voulez connaître quelqu'un, écoutez-le. Pourquoi ? Parce que dès qu'une personne commence à parler, mais elle vous livre une immensité de secrets qu'elle ne va pas verbaliser directement, mais elle vous les livre. Parce que dès qu'on s'exprime, on s'offre. Hein. Ou alors on est un hypocrite, on se cache. Mais ça, on le sent aussi. Hein. Alors, c'est cela que Marie est en train de faire, découvrir le Seigneur. Et donc, cette priorité, c'est le premier devoir du disciple. D'après Jésus, ce premier devoir consiste à se mettre à l'écoute de la parole de son maître. Premier devoir. En ce début d'année pour nous, mais aussi pour vous dans un mois, en ce début d'année, voilà une décision à prendre, une priorité à respecter. Se mettre, vous et moi, à l'écoute du Seigneur. Non pas pour simplement rester à l'écoute sans rien faire, mais justement pour pouvoir mieux agir et pouvoir agir aussi en connaissance de cause, en connaissant exactement la volonté de Dieu. Aimer Dieu, on le sait dans les Saintes Écritures, c'est aussi le servir. C'est pour ça que l'écoute amène naturellement au service. Et en réalité, ce que l'évangéliste Luc nous rapporte, c'est deux types de service. Il y a celui de Marie et celui de Marthe. Marthe va s'activer, et pour des raisons tout à fait légitimes, Marie, elle, va se mettre à l'écoute avant de passer à l'action. Mais néanmoins, quand on découpe un petit peu les versets, versets 40 et 41 et 42, mais surtout le verset 40, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'expriment ces versets dans le service de Marie ? C'est que d'abord, son service est préoccupant. Elle s'affaire à des tas de choses. Elle est préoccupée, elle veut bien faire. En plus, le service est compliqué, parce qu'il est composé d'un ensemble de choses à faire. Ensuite, curieusement, ce service excite chez elle un esprit de comparaison, parce qu'elle va aller voir le maître, elle va lui dire, « Seigneur, ça te fait rien que ma sœur soit là à tes pieds pendant que moi je travaille ?» Donc il y a un esprit de comparaison. Ensuite, c'est un service qui apparemment a perdu sa joie, puisque ce service engendre une plainte. Dans le verset 40, ces quatre aspects. Dans le verset 41, on s'aperçoit que ce service entretient l'inquiétude et l'agitation. Et dans le verset 42, on peut comprendre que c'est un service qui a fait perdre de vue l'essentiel, le sens des choses. Pourtant, comme je vous le disais, le service de Marthe est tout à fait indiqué. Il faut nourrir ces gens. Et en plus, il est motivé par un authentique désir de servir le Seigneur. L'arrière-plan de Marthe et Marie est un arrière-plan juif, de toute la religion juive. Et vous savez que le mot « loi » dans le Nouveau Testament, il a au moins trois significations. La première signification, c'est qu'il désigne les 10 commandements. Ensuite, il désigne l'ensemble de la Bible juive, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de Moïse, puis tous les autres livres qui constituent ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais ça peut également désigner la loi orale, c'est-à-dire cette tradition juive qui n'est ni plus ni moins que l'explication des 613 commandements qu'on trouve dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de Moïse, 613 commandements. 613 commandements qui s'imposent aux Juifs. Pour nous, si je ne me trompe, nous, qui sommes les descendants de Noé, nous avons, je crois, je n'ai plus le chiffre, mais je crois que c'est 10 ou 11 commandements, simplement pour nous, c'est plus du tout pareil. Mais l'arrière-plan culturel de Marthe et de Marie, c'est quand même cette loi. Et dans cette loi orale, se posait par exemple une question suivante, c'est que dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, verset 21, il est dit dans ce livre du prophète qu'on ne doit pas porter de fardeau le jour du Shabbat. On ne doit rien faire. Alors les sages d'Israël, comme les Israélites les appellent, les sages, ils sont posés la question. Si une femme porte une broche sur sa robe, est-ce qu'elle porte un fardeau le jour du Shabbat? Alors ils ont discuté, et vous trouvez ça dans leurs écrits, hein, et alors ils ont décidé que si la broche pèse moins lourd que le poids de deux figues sèches, ce n'est pas un fardeau. Mais si la broche pèse plus lourd que le poids de deux figues sèches, c'est un fardeau. Donc vous voyez jusqu'où ils ont été poussés les choses. Puis ils se sont aussi posé la question au niveau des animaux. Et ils ont dit, si une poule pond un œuf le jour du Shabbat, c'est donc un travail, la poule est en travail, elle a pondu un œuf. Et il ne faut pas travailler le jour du Shabbat. Alors les sages d'Israël se sont posé la question, a-t-on le droit de manger cet œuf pondu un jour de Shabbat? Donc vous voyez, l'arrière-plan culturel a une importance. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, chrétiens évangéliques, qui sommes issus ou du catholicisme ou du protestantisme ou d'autres choses, mais enfin pour la France, beaucoup du catholicisme, eh bien, tout en étant évangélique, des fois, on a des vieux regains de toute l'éducation catholique de ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci, fais cela, et qui est donc le principe de la loi, non pas le principe de la grâce. C'est le principe de la loi de Moïse, c'est plus le principe de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment ça nous influence. Et c'est pour ça que la nécessité exprimée par Marie de se trouver au pied du Seigneur trouve tout son sens. C'est que quand on est au pied du Seigneur à écouter son instruction, eh bien son instruction, son enseignement, sa personne va nous libérer de ce qui n'est pas le produit de l'évangile. Et va nous faire naturellement pénétrer dans la grâce de Dieu, et va aussi nous libérer du péché. nous transformer à l'image de Christ. C'est pour ça que l'écoute est fondamentale. Alors j'avais détaillé certaines choses, mais vu l'heure, je vais quand même avancer. Pour plutôt m'attarder, rapidement, j'avais noté que le service selon la loi, ça excite l'esprit de comparaison. Hein, on est là, on se compare les uns les autres, alors que la grâce, c'est complètement autre chose. Comme on l'a chanté, c'est par la grâce, hein. Je n'ai rien à prouver, hein. On a chanté ces choses. Ensuite, le service selon la loi, il n'est pas joyeux, il est assez écrasant. Pourquoi? Il engendre la plainte. Et puis, le service selon la loi entretient l'inquiétude et l'agitation, parce qu'on n'en fait jamais assez. Et puis, il nous fait perdre de vue l'essentiel de l'amour de Dieu et de sa capacité de nous pardonner, de nous transformer. Alors Jésus nous propose une voie étonnamment simple dans la relation avec lui. Il nous dit que aimer Dieu, c'est prendre place à ses pieds et écouter sa parole. C'est évidemment l'écoute de la parole de Dieu pour pouvoir mettre en pratique cette parole. Ce n'est pas simplement j'écoute j'en reste là. Aimer Dieu, c'est donc écouter Jésus et lui obéir. Et vous vous souvenez de cette phrase en Matthieu chapitre 9, verset 7. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Terminez-moi le verset. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Pardon? Je m'excuse parce que tu parles plus fort. Ok, alors tu as aussi. Okay, oui, c'est ça, et il continue. Écoutez-le. Vous rendez compte? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, si on prend la formule longue de Matthieu ou de Luc. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-le. Et en même temps, sans cette écoute, on ne peut connaître le cœur de Dieu. Et sans cette connaissance, il ne saurait y avoir d'obéissance véritable. En conclusion, servir Dieu consiste premièrement à écouter le Seigneur. Alors écouter, c'est qu'est-ce que c'est? C'est d'abord s'arrêter. Alors vous avez remarqué que tout est fait dans notre société pour qu'on ne s'arrête pas, sauf pour des loisirs, donc pour l'oisiveté. Chose qui était fortement combattue par ma grand-mère et par toutes les générations précédentes avec ce fameux proverbe profane, mais qu'on pourrait trouver sous une autre formule dans les Saintes Écritures, l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Parce que quand un être humain ne fait rien, bah, il ne retrouve plus que sa nature. Et de là, tous les déferlements du péché. Mais la société, elle est faite, elle est construite ainsi pour qu'on ne réfléchisse plus. J'étais hier soir à un concert, comme d'autres parmi nous, et je regardais les gens assis à côté de moi, un concert de gospel, hein, donc avec témoignage de l'évangile, etc. Et puis les gens devant moi et les gens derrière moi, je tournais la tête un moment. Puis les gens de l'autre côté de l'allée, de l'église, hein, vous savez que c'est comme ici, c'est séparé en deux. Alors, ils avaient tous leur téléphone. Et ils étaient tous en train de pianoter, je ne sais trop quoi. Et je me dis, c'est incroyable, ils n'arrivent pas à laisser ça dans leur poche. Alors il y en avait un, il devait avoir une pathologie, hein, parce qu'il prenait son téléphone, il regardait, il le mettait dans sa poche. Mais trois secondes après, il sortait son téléphone, il regardait, il remettait dans sa poche. Enfin, il ne s'était rien passé en trois secondes, mais enfin, il s'était plus fort que lui. Et tout est fait comme ça pour qu'on ne réfléchisse plus, qu'on ne s'arrête plus. Et je regardais comment sont construits les journaux télévisés sur TF1, sur Antenne 2, sur FR3 des fois. Mais c'est un déferlement d'informations, toutes plus ou moins structurées, puisqu'on passe des drames, les pires drames, aux événements les plus superficiels de la société. Et je me dis, mais en effet, là, ils nous lavent le cerveau. Et nous, on est chrétiens, là. Et on ne peut pas se laisser laver le cerveau comme ça. Et puis j'ai rencontré pas mal de non-chrétiens ces derniers temps, et j'ai lu pas mal d'articles dans la presse, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui ont une dimension spirituelle, qui sont dans une recherche de dimension spirituelle. Vous savez ce qu'ils font? Ils passent leur temps à faire de la méditation. Et nous, évangéliques, on ne ferait pas ça. C'est-à-dire, on ne s'arrêterait pas pour se placer devant le Dieu des Saintes Écritures. J'étais dans un endroit pour la fin de l'année comme orateur, et puis là, j'ai rencontré des jeunes, et entre autres, un jeune qui me dit: Jean, j'aimerais te parler. Bon, on fait quelques pas dans la neige, et puis cette personne me dit, bon, je la connais depuis quelques temps, cette personne, elle me dit, je me suis retiré dans un monastère, un ancien monastère, pour 15 jours du silence. Alors je lui dis, ah oui? Et personne n'est de nouveau. Hein. Alors je dis, ah oui? Et alors qu'est-ce que ça t'a amené? J'ai réfléchi à moi-même, je me suis sondé. Alors je dis, ah bon? Puis alors ça arrive à quoi? Je sais pas ce qu'il veut, comment je dois me diriger, je sais pas, je suis agité. Alors je regarde cette personne, puis je lui dis, mais tu sais que le Seigneur nous propose autre chose, nous propose de nous tourner vers lui dans le secret de nos cœurs, de nos chambres, et c'est pas la peine de faire ça pour bloquer 15 jours, on peut le faire toujours, plusieurs minutes, peut-être plusieurs dizaines de minutes si possible, mais de se tenir devant le Seigneur, le Seigneur, le maître de l'univers, le Christ des Saintes Écritures, ton sauveur, et puis lui, il va te faire ce qu'il faut. Et il n'est pas question que tu te fasses une introspection maladive. Je lui dis, regarde, tu n'es pas en paix. Elle me dit, non, je ne suis pas en paix. Alors je lui dis, le Seigneur qui est le prince de la paix, lui, si tu viens devant lui en lui partageant tes soucis, tes interrogations, tes inquiétudes, il va te soulager, il va te donner les réponses au travers de sa parole, il va te conduire par son Esprit Saint au travers des différentes situations. Mais de grâce, ne va pas chercher ailleurs, dans des formes de spiritualité, ce que le Seigneur peut te donner, et en plus gratuitement. Parce que je lui ai demandé combien elle avait payé pour tous ces jours. Oh, dis donc, je préfère être dans le secret de ma chambre avec ma Bible. Alors voyez comment on peut éviter d'écouter. Écouter, c'est d'abord s'arrêter. Vous vous souvenez ce qu'a dit Dieu à Israël quand ils ont quitté l'Égypte sous la direction de Moïse? Ils se sont retrouvés en butte face à la mer Rouge, avec les Égyptiens derrière. Et Dieu ne leur a pas dit, écoutez, il leur a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est extraordinaire, c'est arrêtez de plaindre, arrêtez de gémir, arrêtez d'avoir peur, sachez que je suis Dieu. Alors oui, ça prend de savoir que Dieu est Dieu. Et plus on apprend que Dieu est Dieu, plus on se rend compte qu'il est encore plus Dieu que ce qu'on imagine. Encore plus parfait, encore plus complet, encore plus intelligent, encore plus sauveur qu'on ne peut l'imaginer. Ensuite, écouter, c'est d'abord se taire. Ah oui, pour écouter, il faut se taire. Vous avez remarqué deux personnes qui se parlent sans s'écouter. Ça fait un dialogue de sourds. Pour écouter quelqu'un, il faut se taire. On ne peut pas passer son temps à parler à Dieu quand on a un culte avec Dieu. Il faut aussi savoir se taire devant Dieu et se tenir devant le Seigneur avec sa parole, lire sa parole et lui demander, Seigneur, éclaire-moi dans ce que je lis, fais-moi voir ta personne, touche-moi, réponds à mes soucis, à mes besoins. Et à un moment donné, on se tait, on contemple. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans la deuxième aux Corinthiens, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Bon, le miroir du Seigneur, c'est évidemment les Saintes Écritures. Eh bien, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc se taire pour contempler et pour entendre Dieu, après cet arrêté, il faut se taire. Et puis écouter, c'est aussi faire la volonté du Seigneur. Parce que si on ne se met pas en marche pour accomplir ce que le Seigneur nous a révélé, on ne va absolument pas grandir dans notre foi, dans notre intimité avec Dieu. Vous qui avez des enfants, vous comprenez bien ça. Vous qui vous occupez de vos frères et sœurs si vous êtes plus âgés. Quand vous dites à votre frère, à votre sœur, ou vous, parents, à vos enfants, ou à un de vos enfants, fais ceci, puis qui dit oui, puis qu'il ne bouge pas. Bah, à un moment donné, vous lui dites, tu veux obéir, oui. Parce que écouter sans agir, ça ne sert à rien. Donc le Seigneur, lui, nous dit, mais manifeste ta foi en pratiquant ce que je t'ai enseigné, ce que je viens de te révéler, te faire comprendre. Oh, je suis dans les temps, hein, c'est super. Hein. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus parle à Marthe, en lui adressant en quelque sorte, en l'interpellant sur son activité, c'est pas tellement que Jésus veut lui faire un reproche sur le sens du devoir, mais plutôt sur le fait de ses priorités. Pourquoi ? Parce que Marthe, elle comprend sa façon de servir le Seigneur de cette façon-là. C'est donc sa façon à elle. Elle vit et conçoit ce service de cette manière-là. Je vais servir Dieu comme ça, en étant dans l'action. Et pourtant, Jésus va lui dire, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et Jésus lui rappelle qu'une seule chose est nécessaire. Si vous voulez, il y a le nécessaire, l'indispensable, et puis il y a le secondaire. Et Marthe, elle est plutôt dans le secondaire, ce qui est second, ce qui n'est pas à négliger, hein, c'est l'action, mais c'est quand même second. La première chose, c'est, Jésus va lui dire, c'est de s'asseoir à mes pieds puis d'écouter ma parole. Je le répète, ce qui plaît à Dieu, c'est d'abord que nous l'écoutions. C'est là, en effet, que nous ouvre son cœur et nous fait connaître sa volonté. Si Marthe s'était donné la peine d'écouter son Seigneur, elle aurait sans doute vécu et envisagé son service différemment. Elle ne s'en serait pas prise à Marie, qui faisait précisément ce qui plaît au Seigneur, et toutes deux auraient mangé, auraient été rassasiées, sans que l'amertume ne soit venue assombrir le repas. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'elles auraient été au pied du Seigneur, elles auraient travaillé ensemble pour faire ce qu'il fallait faire. Jésus demande à Marthe de revoir ses priorités. Aimer Dieu ne consiste pas en premier à dresser une liste de choses à faire pour lui, même si cette liste de choses nous venait de la Bible ou de la tradition de notre Église. Après tout, il y a des instructions qui peuvent nous être données par l'Église où nous sommes. Mais aimer Dieu consiste en premier à s'asseoir à ses pieds et à prendre le temps d'écouter sa parole. Si Jésus demande à Marthe de revoir ses priorités, c'est qu'il nous demande aussi de revoir les nôtres. Et c'est une des raisons d'être du début d'une nouvelle année, c'est de réfléchir à ce qu'on va faire, comment on va la vivre, à tirer le bilan en quelque sorte de l'année passée pour vivre différemment cette nouvelle année qui nous est offerte. Sommes-nous de ceux qui n'écoutent pas ou qui n'écoutent plus ? Et qui se jette à corps perdu dans l'activisme. Sommes-nous certains de connaître la volonté du Seigneur ? Prenons-nous le temps de nous arrêter pour écouter notre Seigneur ? Et je crois que c'est un excellent exercice auquel les Saintes Écritures nous invitent, chacun d'entre nous, dans le secret de nos chambres et de nos cœurs. Pourquoi ? Parce que la qualité de notre service dépendra de la qualité de notre écoute. Et l'écoute, c'est autre chose que simplement entendre des mots, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est rentrer dans cette connaissance de Dieu, dans cette intimité avec lui. Pour conclure, vous savez, vous vous souvenez de ce que j'ai lu dans l'évangile de Jean, c'est cette Marie qui a oint les pieds de Jésus. Vous savez que pour aller oindre les pieds du Christ, dans une société où le Christ était critiqué et rejeté, il faut avoir du courage. C'est parce qu'elle avait été à l'écoute du maître qu'elle avait identifié en quelque sorte une partie de ce qu'il était. Elle n'avait pas tout compris, mais elle avait saisi qu'il était exceptionnel. Avait-elle saisi sa messianité avant les hommes ? Elle avait compris quelque chose. Et donc elle s'en va au milieu des disciples pour oindre Jésus et puis essuyer ses pieds avec ses cheveux. Et vous souvenez ce que les textes inspirés nous disent ? Dans les trois synoptiques, il nous est parlé de cet événement. Trois synoptiques, c'est comme Matthieu et Luc. Et alors, qu'est-ce qu'il est dit là ? Les disciples disent, mais ils protestent. Et Jésus va leur dire, mais pourquoi vous lui faites de la peine à cette femme ? Et dans l'évangile de Jean, c'est très spécial parce que l'angle est donné sur autre chose, sur le rapport de Jésus-Christ avec Judas. Et là, c'est Judas qui dit, on aurait pu garder cet argent pour les pauvres, alors que le texte nous dit que Judas était un voleur et que tout ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait de l'argent dans la bourse pour pouvoir se servir. Donc non seulement il était voleur, mais en même temps hypocrite. Cette femme a donc affronté toutes sortes de regards, d'opposition. Et elle a eu le courage du témoignage de ce qu'elle portait dans son cœur vis-à-vis de Jésus. C'est en écoutant le Seigneur que nous aussi, nous aurons le courage de manifester notre identité de chrétien, de disciple de Christ, que nous pourrons aller à contresens dans certaines situations. Ce que nous n'osons pas, peut-être, ce que nous n'osons peut-être pas faire aujourd'hui, afficher notre foi en Jésus-Christ dans les milieux où nous vivons, familiaux, professionnels et voisinage. Eh bien, c'est à l'écoute du Seigneur que ces choses vont nous être rendues possibles. Voilà ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite. Donc, ce que je nous souhaite, si je puis m'exprimer ainsi, pour cette année 2014, que nous soyons à l'écoute du Seigneur pour le voir grandir en nous et que nous puissions, nous aussi, donc, être en bénédiction à ceux qui nous entourent pour la gloire de son nom. Amen.